Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ah, mais pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma.
Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film.
C'est un scandale! Un scandale!
Nous déclarons le 60e Festival International du film de Cannes ouvert.
Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 4. Je suis David Honoré et je suis toujours à Cannes en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la croisette. Alors on enregistre un petit peu plus tard dans la journée que d'habitude, vous allez peut-être entendre des basses, les soirées sont en train de se préparer.
Bien.
Et on entame donc la dernière ligne droite. On commence à remonter la pente de ce festival de Cannes 2018 avec moi Perrine Kenson qui m'a l'air un peu en bout de course mais qui est quand même en forme. Comment ça va, Perrine?
Oui, bonjour, ça va. Jour 28 000, ça va, je tiens.
Et avec nous également Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo?
Salut David, en bout de course aussi, hein. Je pense qu'on est tous là.
Ah, mais ta meilleure mine, comment tu fais? C'est quoi cette crème de jour?
Une huile de jojoba tous les matins.
Alors au menu aujourd'hui, on a des gros morceaux. On va parler du film de Lars von Trier présenté hors compétition, The House That Jack Built, avec un accent merveilleux. Aussi, on a un petit bout de Star Wars avec Solo de Ron Howard, qui était également présenté hors compétition. Et puis, on va parler aussi de Black Landsman de Spike Lee, d'une affaire de famille de Koreeda et de pas mal de petites choses qui ont retenu notre attention. Et on commence tout de suite avec ce cher Lars von Trier. Qui du coup n'est plus si non grata que ça en tant que persona, quoi, parce qu'il est revenu cette année à Cannes.
En fait, il n'y a eu qu'un seul film entre les deux, finalement.
Voilà. Un film en deux parties.
Ouais, un long.
Et qui était Nymphomaniac, qui l'a présenté à Venise, si je ne me trompe pas, ou je ne sais plus, à Berlin, ou puis la deuxième version.
Oui, je crois qu'il l'avait fait en deux moments en plus. Ouais. Non,
Enfin bon, il n'était pas à Cannes, et il est de retour avec ce film.
Et il a la rage.
Il a la rage. De quoi parle le film, Perrine? Raconte-nous un petit peu.
Eh bien, je reviens juste sur ce que tu dis, j'ai eu le retour, parce que ça faisait 7 ans qu'il s'était retrouvé persona non grata en 2011, et d'ailleurs, il l'a bien fait sentir à la projection.
Rapidement, pourquoi?
Oui, il a pas rapidement pourquoi, parce que lors d'une conférence de presse de Mélancolia, il avait eu des propos, excessivement maladroit en lien avec le nazisme et il y a eu un amalgame sérieux de faits en disant que c'était l'apologie, ce qui clairement, si vous réécoutez sérieusement la fameuse conférence de presse, c'est pas le cas. C'est juste que ça, c'est un gros boulet.
Mais on a retenu la phrase. En fait, au fond, je comprends Hitler.
Je comprends Hitler. Bon, mais en fait, on est dans le contexte. Mais voilà. Enfin bon. Donc résultat, depuis, il était persona non grata et il l'a bien fait sentir encore une fois à la projection officielle de son film l'autre soir à 22h30 parce que il a bien fait une fois qu'il était en gros plan, il faisait un grand chiffre 7 avec ses mains comme ça, genre. 7 ans que j'étais pas là, les gars, I'm back. Donc il revient dans les dents devant en racontant l'histoire d'un serial killer, mais du point de vue de ce serial killer, donc qui est Matt Dillon. C'est Matt Dillon qui nous parle de 5 incidents. J'aime beaucoup le mot incident pour parler
petit
de meurtre.
Petit euphémisme.
Pour parler de meurtre absolument atroce. Et donc 5 incidents, 5 qui ont marqué sa vie de serial killer. Et il est en dialogue intérieur avec une voix qui s'appellerait Verge. Et je n'en dirai pas plus sur Verge pour l'instant, ça c'est sûr.
Voilà, et du coup, comme on est un peu dans la psyché du psychopathe, il nous raconte un peu ses motivations et aussi l'ambition esthétique qu'il a dans ses meurtres. On imagine que Lars von Trier s'identifie un peu pas mal, ou en tout cas se fait plaisir à se mettre dans la tête de ce psychopathe. Hugo.
Oui, et ce psychopathe part un peu dans des digressions et compare ses meurtres à de l'art. Et en fait, ces digressions sont Enfin, il y a des images à l'appui, donc c'est Lars von Trier qui parle, puisque c'est Lars von Trier parle en images, et donc c'est l'occasion de mettre un petit Hitler par-ci par-là, de mettre
de s'autociter, de
pas, pas que Hitler pour le coup, il y a pas de jaloux, il y a Mussolini,
il y a même Staline, des images des camps et tout, enfin, voilà. Et il y a des images des films de Lars von Trier, etc. Mais il y a aussi ce contrepoint de l'autre personnage, donc ce fameux Verge. Qui répond à ce serial killer qui tient des propos que pourrait tenir Lars von Trier à peu près sur l'art en tout cas, et qui ridiculise presque ce qu'est en train de dire ce serial killer. Donc on ne sait pas trop si Lars von Trier se fait ce dialogue dans sa tête, ou alors si il parle au nom de ce serial killer, et si ce Verge est juste une manière de représenter ses critiques. Donc c'est ça un peu le nœud du film.
Je suis pas sûre que ce soit une représentation des critiques. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que le film est clairement, pour moi, je vois un autoportrait peint, mais vraiment avec beaucoup de grands coups de pinceau comme ça. Bon, ça se voit pas, mais je fais des grands gestes, mais il a un grand coup de pinceau de lui-même, en disant genre, bon, ok, d'accord, ok, j'ai déconné. À un moment donné, j'ai peut-être dit 2-3 trucs misogynes, j'ai peut-être dit 2-3 trucs limite. Et en même temps, je suis pas déso. Donc en fait, il est un peu déso, pas déso. Je suis comme ça. En fait, en sortant de la projection, moi, j'avais qu'une envie, c'était chanter du Gloria Gaynor, I am what I am. Parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il était en train de nous dire, genre, bah, je suis comme ça, donc va falloir faire avec. Et je trouve que c'est assez en soi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le mec, hein, je trouve qu'en soi, je peux pas m'empêcher d'admirer ça, en fait. Quelqu'un qui me dit à un moment donné, allez tous vous faire voir, parce que je reste poli, mais allez tous vous faire voir, je trouve que c'est assez, assez splendide. Et je reviens juste sur l'histoire de l'art que vous citiez tous les deux, le fait de comparer les crimes aux arts, bah, c'est clairement une. Enfin, pour moi, c'est évident, je sais pas s'il l'avait dit en interview ou pas, mais c'est clairement une citation de Thomas de Quincey, ou de Quincey, je ne sais jamais comment on dit, qui avait écrit ce livre du crime considéré comme les beaux-arts, et comme un des beaux-arts, pardon. Et donc, pour moi, on est vraiment dans cette idée-là, parce qu'encore une fois, Lars von Trier a une très haute opinion aussi de lui-même et de ce qu'il fait, tout comme ce serial killer sur la façon dont il tue et met en scène ses meurtres, en tout cas.
Oui, effectivement, comme tu dis, il est fidèle à lui-même, et du coup, j'imagine, alors moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu, j'ai réalisé une nouvelle fois en voyant le film que j'étais complètement, en fait, imperméable au cinéma de Lars von Trier, c'est-à-dire que à la fois, j'ai l'impression qu'une grande partie de sa démarche est d'essayer de, si ce n'est de choquer, de trouver la manière la plus originale d'emmerder le monde. Et comme en fait, je m'en fous, ça ne me choque pas. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui, au-delà de ça, peut l'intéresser. Et je vois un peu passer le film en disant, bon, d'accord, alors je reconnais des qualités esthétiques, et encore... Enfin, je trouve par exemple ce film moins impressionnant que Mélancolia, ou même que l'était en tout cas la première partie de Nymphomaniac par moment, qui avait, je trouvais, des vraies trouvailles visuelles. Là on a des choses de bonne facture, mais pas...
Il y a
de la mise en scène, il y a des trucs beaux. Enfin, c'est le film aurait très bien eu sa place en compétition. Enfin, on imagine que c'est plus d'autres raisons qui l'ont poussé hors compète. Mais du coup, je trouve son film moins révolutionnaire que ce qu'il a pu être, y compris sur le plan esthétique.
En fait, moi, je pense qu'il n'essaie pas de faire quelque chose de particulier. Je pense qu'il explore sa propre psyché. Et moi, je trouve que en fait, ce film ressemble à une séance chez un psy. Mmh. Il parle à un gars qui lui répond, qui lui dit, ah, mais du coup, vous m'avez parlé de ça. Voilà. Il rebondit dessus, etc. Mmh. Et en fait, il choisit juste la meilleure forme possible, je pense, pour essayer de se sonder lui-même. Et je trouve que ce film ressemble vachement à Nymphomaniac.
Exactement, dans la construction.
Dans la construction, c'est quasiment la même. En fait, c'est par chapitre,
ouais.
par événement qui est
dépeint. Chapitre, c'est son truc déjà. Enfin, c'était le cas sur Antichrist. Il marche en chapitre. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est le dialogue. Déjà dans Nymphomaniac, c'était Charles Gainsbourg qui discutait avec Stellan Skarsgård en permanence, et elle se confessait à lui en disant qu'elle était un monstre. qu'elle n'était pas, pas quelqu'un de bien, qu'elle méritait pas. Elle arrive en sale état chez Stellan Skarsgård. En gros, elle dit qu'elle mérite ce qui lui arrive. Et on est dans le même système avec ce personnage.
C'est ça, ouais. En fait, il se préoccupe plus vraiment de raconter des histoires, de trouver une forme pour raconter une histoire en particulier, comme ça avait pu être le cas que Mélancolia est bien avant Le Dogme, etc., où c'était vraiment du réalisme. Comme pourrait faire Kechiche, enfin je compare pas Von Trier à Kechiche, mais c'est cette idée de cinéma d'essayer d'imiter le réel. Là c'est plutôt trouver une forme pour montrer ce qu'il a dans la tête, et donc ça se matérialise par les meurtres d'un serial killer pour cette fois, mais la prochaine fois ce sera peut-être un truc totalement différent.
Après les meurtres,
je pense que je sais pas s'il y a vraiment une idée, une intention profonde derrière. Et en fait, c'est peut-être juste une grosse élucubration. Et ça, du coup, ça prend la forme parfois d'une comédie. C'est-à-dire que je pense que Lars von Trier, au fond, quelqu'un de drôle. Et donc, du coup, à certains moments, ça part dans des trucs vraiment burlesques et qui paraissent très, très décalés avec le sujet du film, quoi. Et donc, c'est ça tout Lars von Trier. C'est que vraiment, il se lâche, il fait ce qu'il veut et puis c'est tout, quoi.
Après, il volontairement provoque, quoi. Ça l'amuse beaucoup, et ça l'amuse beaucoup de voir les gens réagir.
Ouais, ça,
il adore ça, et je suis sûre que là, quand on a lu... moi, j'étais à la projection officielle ce soir-là, monter des marches, tout ça, voilà, j'ai fait un petit effort de tenue. Mais je confirme, en effet, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la salle. Moi, j'en ai vu beaucoup passer à côté de moi, avec des... Puis ils te faisaient bien comprendre qu'ils sortaient de la salle. Hein. Vas-y que je te claque la chaise, ouais. Vas-y que machin. Puis genre, comme ça, puis je te fais un tweet assassin derrière, du genre, c'est honteux, c'est scandaleux, ça devrait même pas être... Bah si les gars, puis si vous allez voir un film comme ça, si vous allez voir Lars von Trier, il fallait un petit peu vous en douter qu'il allait venir vous faire chier, quoi. Et les scènes de meurtre, c'est vrai, elles sont certaines, une qui impliquant des
inventive.
Enfants, est particulièrement estomacante, quoi. Donc ça, c'est sûr. Mais quand on va voir un ventre, on se doute bien que c'est pas une série AB, quoi.
Ouais, mais c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à un truc très très gore, parce que et c'est plus de la violence morale, en fait.
Il y avait des rumeurs qui annonçaient que le festival avait prévu des ambulances.
Il y avait un buzz qui a un petit peu monté tout seul, quand même. Hein.
Dans le programme, il était écrit attention aux âmes sensibles.
C'est écrit sur le billet. C'était violence explicite. Ouais. Ça n'arrive jamais. Ouais, il y avait un tampon.
Il y a quelques trucs un petit peu graphiques, et en même temps, bon, peut-être qu'on a ce truc de critique de cinéma d'être devenu un peu insensibilisé aux images. Et bon,
c'est quand même gore, ouais. Mais en fait, on a vu bien pire à Cannes, et en fait, c'est surtout de la violence morale. Ouais. Cette scène qui implique des enfants, en fait, c'est pas très très violent dans les images. Mais c'est la préparation de ce que ça représente.
C'est le sadisme qui va avec, quoi, qui rend mal à l'aise, quoi.
Et alors, juste pour conclure sur Lars, je vais le citer. Il a lâché ça au cours d'une table ronde sur les hauteurs de Cannes, et c'est rapporté par le Figaro. Il dit: je n'ai jamais tué personne, mais si je devais le faire, ce serait un journaliste. et donc là, je pense qu'on tient le génie du personnage.
Il est drôle quand même.
Il reste drôle. Il y a rien à faire.
Il est quand même pas mal.
Je pense qu'il est parti avec son petit camping.
Je sais pas s'il est parti, hein. Peut-être qu'il va.
Je pensais que j'avais vérifié, parce que le camping-car est planqué, enfin, est mis derrière le palais du festival. Ah. Je ne déconne pas, il est là. Hein.
Ah, ça,
donc,
c'est fort.
Il était là la dernière fois.
Alors, on passe complètement du coq à l'âne, puisqu'on passe de Lars von Trier à Disney, et le nouvel épisode de Star Wars. Alors, on est dans les spin-offs, préquels, tout ce que vous voulez, backstory. C'est Solo de Ron Howard, donc qui a hérité un petit peu tardivement du projet, et qui raconte la jeunesse d'Han Solo. C'était présenté également hors compétition, avec un cast assez riche. Ça fait une belle montée des marches. Et on a découvert le film. Alors moi, je l'ai découvert à une projection de 22h15, dans une indifférence assez globale. Il devait y avoir une quinzaine de personnes dans la salle. Ah bon. J'ai l'impression que ça me fait un peu de la peine de voir que maintenant Star Wars arrive au festival, et c'est devenu quelque chose de tellement banal qu'on s'en fout un peu.
Ils avaient prévu énormément de projections aussi. Et
alors, il y avait beaucoup de projections.
Il y en avait trop.
Ouais. Mais celle de 19h45, qui était un décalage par rapport à la projection officielle, j'y étais. J'étais en Bazin, qui est la plus petite salle. Hein. C'est pas Debussy, mais on m'a dit que Debussy déjà était pas du tout plein. Et la Bazin, il y avait au moins 150 sièges de libre. Voilà. Donc clairement, il y avait un truc genre... Ouais, enfin, Balek.
En tout cas, ça intéresse pas les journalistes. Les journalistes qui viennent à Cannes. C'est vrai que
ça sort la semaine prochaine.
Voilà, le film... à la soirée, mais pas au film.
Le film sort la semaine prochaine. Voilà. Et alors, on l'a vu. C'est donc comment résumer ça ? C'est à la fois, je dirais, un western et un film de casse, un film de braquage dans l'univers de Star Wars. Il y a pas de Jedi, pas de sabre laser, il y a pas la Force.
Il n'y a pas le générique.
Oui, alors ça, c'était un peu mon truc. Bouge le machin. Mais non, ça ne marchait pas.
Et donc, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, Hugo ?
Bah, justement, moi, j'étais assez client de l'épisode 7 et 8. Et là, pour le coup, j'ai pas retrouvé mon Star Wars. Pour moi, Star Wars, c'est un voyage initiatique. C'est une histoire. Enfin, c'est presque une fresque, en fait. Et là, c'est pour moi, c'est comme tu dis, c'est plus un film de casse, un peu lambda. Voilà, je trouve que les personnages manquent de charisme, y compris Han Solo. En fait, j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est interchangeable de tous les blockbusters qui sortent. Moi, ça m'a fait penser au Gardien de la Galaxie que j'aime pas trop, par exemple. C'est un film de bande qui organise un casse, qui s'amusent ensemble et il n'y a pas la magie entre guillemets de Star Wars, donc j'ai été plutôt déçu en ajoutant à ça le fait que l'image est très très sombre, il n'y a pas beaucoup de contraste.
80% du film est sous-exposé, alors ça, j'ai limite cru sombre, un problème technique quoi. Enfin, c'est vraiment bizarre.
Ouais, donc ça me fait encore plus penser à Zack Snyder ou à des choses comme ça qui sortent régulièrement. Donc plutôt déçu moi dans l'ensemble.
Et toi Perrine ?
Un petit peu comme Hugo qui était en mode hashtag not my Star Wars. Si je devais faire une critique en un mot, ça serait mouais. Voilà. Mais non, je passe pas un mauvais moment, je vais pas mentir. Voilà, j'étais devant, je trouvais ça. Mais ça a défilé devant moi, et comme ça. Puis à la fin, j'ai fait bon, on va manger. Enfin, c'était pas. Le film m'a jamais vraiment accroché à aucun moment.
On s'en fout, en fait.
C'est un peu, pour le coup, hashtag on s'en fout, quoi. Enfin, Osef. Mais c'est juste que l'histoire, elle est pas très très surprenante. Je trouve qu'il y a un peu gentiment une part fan service sur la fin que je trouve pas particulièrement en tout cas, ou bien moi j'ai pas compris, mais enfin je vois pas, mais bon, je trouve ça très fan service. Le méchant qui ressemble pas à un méchant, c'est assez marrant d'ailleurs. Moi je trouve que le méchant, voilà, parce qu'il y a un méchant, et j'ai l'impression qu'on est dans un film qui s'en prend aux banques. Je trouve qu'il a une tête de banquier. Donc,
oui, c'est un méchant humain en costard.
Ouais,
c'est
il est
pas
en costard.
Du tout Star Wars,
à un moment du départ, j'ai fait, on est dans RPO, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, d'un seul coup, je comprenais plus rien. Donc, il y a quelque chose où, ouais, ça nous emporte jamais. L'un des personnages qui est peut-être l'un des plus amusants, c'est encore une fois un robot, parce qu'ils ont finalement complètement fait de robots les sidekicks comiques de tout l'univers Star Wars.
Comme dans Rogue One.
Voilà, ils ont compris que on va pas faire rigoler les autres, on va faire rigoler c'est les robots qui vont nous faire rire, et c'est finalement presque l'un des personnages les plus intéressants du truc, et qui se, enfin bon, on va pas aller plus loin.
je suis tout à fait d'accord, c'est un personnage de robot qui lutte pour le droit des robots,
pour l'égalité entre robots et humains.
Donc c'est un peu son arc narratif est basé là-dessus, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'on le voit pas tant que ça, ce personnage, et c'est dommage.
Avec la voix de Phoebe Waller-Bridge, qui est cette scénariste, réalisatrice, actrice de génie de la comédie anglaise, c'est vrai que d'un seul coup, on se dit que c'est quand même un peu dommage de... en fait, tout le monde est en sous-jeu.
Oui, Donald Glover, c'est pareil, qui est aussi...
que j'adore.
qui est absolument génial, qui est un des meilleurs auteurs pareil de série actuellement, et qui est il joue le rôle de... le nom m'échappe, Lando
Calrissian,
pareil, est complètement en sous-régime, très peu de charisme finalement par rapport à ce qu'il est capable d'exprimer.
En fait, tout le long, on se dit mais pourquoi. Enfin, moi, je me dis tout le long, mince, j'aurais aimé tellement voir la version Lord et Miller, quoi. Parce que je suis sûre que ça aurait été vraiment pimpé, quoi. Là, ça aurait été un peu Pimp My Ride. Là, on sent le truc pépère à la Ron Howard. On va pas sortir des carcans, quoi. Enfin, c'est pépère, hein. C'est pépère.
Et effectivement, on rentre clairement dans la logique des problèmes des productions Disney de ces dernières années, que ça soit avec Star Wars ou Marvel, où en fait on ne peut pas sortir d'un carcan, des guidelines générales du produit. Alors, mais moi, j'y allais un peu à reculons, et je trouve que ça correspond à ça, et vraiment pas beaucoup plus, quoi.
Il y a certaines productions Marvel qui ont quand même l'avantage d'être assez drôles. Et là, je trouve que les tentatives d'humour tombent à plat, ou alors c'est hyper souligné, genre qu'un personnage chute et il y en a un qui dit « Ah, il vient de tomber », donc du coup, ça nuit à la blague. Enfin, ça se passe pas vraiment comme ça, mais, mais il souligne à fond toutes les blagues, et donc du coup, elles tombent toutes à plat, et ça aurait pu être la spécificité de ce Star Wars-là, et ça ne l'est pas, parce que c'est pas très bien écrit, en fait.
Voilà, donc.
Non, j'ai juste un truc, on discutait après, à une soirée après le film, on discutait avec d'autres journalistes, puis on se disait, mais combien de films ils vont faire encore sur la nostalgie du Faucon Millenium? Parce que dans le set, déjà, c'était genre, oh mon dieu, le Faucon Millenium. Et là, ils sont là, genre, bah, comment il a récupéré le Faucon Millenium? Alors, on se dit, ça va être un film sur le mécanicien qui a fait le Faucon Millenium. Enfin, on se dit, il y a un truc, arrêtez à un moment donné avec le Faucon Millenium, passer à un autre objet, je sais pas, moi, mais là, ça devient un peu, ça devient redondant quand même.
Et malheureusement, j'ai peur qu'on en voit beaucoup. on va enchaîner du coup, et alors parler cette fois d'un film en compétition que personnellement j'attendais beaucoup, qui moi m'a un petit peu déçu, bien qu'il soit assez divertissant, c'est Black Landsman de Spike Lee. L'histoire, c'est adapté d'une histoire vraie d'un flic afro-américain qui, dans les années 70, a entre guillemets infiltré le Ku Klux Klan, je dis entre guillemets parce qu'on s'aperçoit dans le film qu'il l'infiltre surtout par téléphone.
Oui, d'ailleurs, dans la réalité, je suis même pas sûr que ça se passe comme dans le film, parce que ça paraît un peu gros comme.
Oui, alors du coup, on est donc dans une sorte de comédie policière, enfin qui réussit ce que réussit assez bien Spike Lee. Habituellement et par le passé à jouer sur différents registres, des changements de ton et d'être dans des trucs à la fois assez graves et puis ne jamais perdre de vue l'humour, les bons mots et des situations comiques. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, Perrine?
Moi, je ne l'ai pas vu.
Ah pardon, je me lançais. Et en plus...
J'ai très envie de le voir et j'ai hâte de vous entendre.
On a bien préparé l'émission et on s'est dit avant, oui, Perrine n'a pas vu, donc on va juste parler tous les deux avec Hugo de Spike Lee.
Et moi je suis lancé dans mon truc.
Hugo, du coup, toi, qu'est-ce que tu as pensé du film?
Alors, comme tu disais, c'est une comédie policière, une comédie d'infiltration, disons. Et moi, j'ai été hyper déçu parce que pour moi, une comédie, ça doit être drôle et c'était pas très drôle. Et un film d'infiltration, il doit y avoir du suspense, de l'action. Et je trouve ça très très mou, très très linéaire. Donc du coup, dans l'ensemble, comme on disait tout à l'heure, on est fatigué. Moi, j'ai beaucoup piqué du nez devant ce film. J'avais envie de dormir tout le temps parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de relief dans ce film. Et donc du coup, j'ai vraiment pas apprécié l'expérience. Il faudra peut-être que je le revoie un jour, mais en tout cas, il y a des films qui m'enthousiasment plus malgré mon état. Donc je me dis quand même qu'il y a un problème, quoi.
Alors moi j'étais en pleine forme, je l'attendais énormément, j'étais vraiment au taquet, les yeux écarquillés. Et quand même j'ai été très déçu. Alors déjà sur... Il y a des choses de forme qui vraiment ont pris un coup de vieux chez Spike Lee, et quand il fait des inserts avec des pochettes d'albums, des affiches de films, il y a une séquence où il demande les personnages se font un petit pop quiz entre eux sur quel film de Blaxploitation tu préfères, ouais. Ce genre de choses. Ouh là là, ça a vraiment beaucoup vieilli. Enfin, ce genre d'effet, ça, ce qui pouvait être un petit peu fun, dynamique, subversif dans
cool.
Les années cool, exactement dans les années dans les années 80-90, aujourd'hui sont quand même assez ringards. Et pour moi, c'est ça le grand drame de Spike Lee, c'est d'être d'avoir vraiment passé en fait la date où c'est plus cool de vouloir être trop jeune, quoi. Enfin, il y a un truc, il y a vraiment un problème. Et encore, tu vois, c'est comment dire, en termes de mode, il est arrivé hyper looké sur le tapis rouge lui-même, et ça passe plutôt pas mal. Enfin voilà, le personnage Spike Lee a résisté au temps. En revanche, son cinéma, j'ai malheureusement, alors que j'espérais voir avec son retour à Cannes une sorte de revival et le retrouver au niveau, si ce n'est à celui de Do the Right Thing, à celui qu'il pouvait avoir à l'époque de la 25e heure. Malheureusement, on est dans un film quand même, d'assez bonne facture, qui est plutôt divertissant, qui raconte bien son histoire, qui finalement, sur un sujet qui n'est pas si enthousiasmant que ça, arrive à trouver des situations et à développer des personnages, etc. Et après, en fait, il...
Je trouve pas qu'il développe vraiment des personnages, hein. Pas notamment, c'est un mec qui infiltre le Ku Klux Klan et en fait tu vois pas vraiment comment ça se passe à l'intérieur du Ku Klux Klan alors que t'es censé quand même découvrir un peu, d'apprendre des choses et en fait c'est un peu, c'est très schématique quoi, c'est juste des gars qui passent leur journée à repasser
des cagoules.
Ouais. Non mais il repasse pas mal de cagoules.
Ça aurait été plus intéressant s'il repassait des cagoules au moins.
Bah, c'est un peu ça parce qu'il montre aussi et puis il y a la femme d'un des principaux membres du clan qui prépare des je sais plus ce que c'est, leur fait à bouffer ou des trucs comme ça. Enfin il y a un peu le quotidien du clan quand même. Il y a un peu ce côté là qui est beaucoup tourné en dérision. Enfin il en profite quand même pour beaucoup se foutre de leur gueule. Il y a aussi le personnage de David Duke. Ben non, on entend parler dans l'actualité puisqu'il avait pas mal soutenu Trump et il a un peu récemment fait parler lui à l'époque des événements à Charlottesville, etc. C'est très martelé dans le film et clairement le côté les résonances contemporaines de ce dont parle Spike Lee sont hyper importantes pour lui. C'est hyper souligné pendant tout le film et il en rajoute une couche à la fin avec un petit montage qui me choque pas en soi, mais qui, je trouve, aurait mérité d'arriver à la fin d'un meilleur film. Et du coup, on a un truc qui est à la fois très chargé politiquement, sur un sujet, mais à 100% pertinent, mais avec une vitalité et des ressources un peu passées. Quoi.
Ouais, ça mériterait un propos un peu plus intelligent, un peu plus fin. Là, ça fait vraiment... Je trouve ça un peu puéril, en fait. Il dit en gros, le Ku Klux Klan, vous êtes des gros caca-boudins, quoi. Enfin, ça va pas plus loin que ça, et c'est un peu dommage.
Oui, raison.
C'est sûr, mais enfin, bon, moi j'attendais mieux, quoi.
Et alors, on va juste enchaîner très rapidement avec un autre film de la compétition qu'on a vu et qui nous a plutôt plu avec Hugo. Je vais pas te redemander ton avis, Perrine, si tu m'as dit avant que tu
Merci,
l'avais
je,
pas
je,
vu.
Je continue à regarder la pluie tomber.
Oui, alors là, petit point météo, il pleut.
Et
là,
on a un petit moment de panique parce qu'on n'a pas de parapluie. Donc, moment de panique.
Voilà. Alors qu'on a investi.
C'est toujours comme ça.
On va parler d'une affaire de famille de Kore-eda. Le titre international est Shoplifters, qui raconte un peu plus... la fusion du titre français et du titre américain fait le pitch du film. C'est en gros une famille recomposée, fabriquée en fait entre des gens qui ne sont pas de la même famille. Enfin, si on résume, des enfants un peu kidnappés, enfin
oui, récupérés. Sur la...
mais comment il essayait de faire ça tout joli.
Mais dans la joie et la bonne humeur, enfin voilà, c'est qui sont un peu des voleurs à l'étalage.
Un peu ou vraiment cette fois-ci.
Et totalement des voleurs à l'étalage. Et mais en même temps, c'est pas tant le sujet du film. Le sujet du film principal, ça reste la famille et de comment réussir à construire une famille à partir de briques et de brocs. Et du coup, ça rappelle des films. À mon avis, à mon sens, les meilleurs films de Kore-eda qui peuvent être Nobody Knows ou Still Walking, des films qui avaient été présentés à Cannes également. Et c'est extrêmement mignon, il a toujours cette force dans la capacité à diriger les enfants, notamment qui sont je trouve assez extraordinaires et très mignons. C'est quand même. J'insiste sur le
maître mot est mignon.
Ce qui nous fait oublier qu'ils ont été kidnappés en fait. Enfin, kidnappés. Ils ont été recueillis, on va dire, par cette famille. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hugo ?
C'est ça. En fait, le film est mignon pendant une heure. C'est-à-dire que voilà, t'as plein
tu vas dire une bâcherie.
Non, je veux dire, c'est des séquences de la vie quotidienne. Et moi, à Kore-eda, j'adhérais pas trop. Alors, j'avais peut-être pas vu les meilleurs. J'en avais vu 2-3 et je trouvais ça très, très lent d'habitude. Et là, c'est toujours le même rythme. Mais en fait, je suis vraiment captivé par ce qui se passe parce qu'on est au sein d'une famille. Et donc, c'est extrêmement mignon, effectivement. Et au milieu
du film, on a dit 25 fois ce mot.
C'est le mot du jour.
Et au milieu du film,
il
se passe un truc qui fait basculer le film dans une autre ambiance. Et du coup, ça devient de mignon, ça devient poignant. Quoi. Donc, on a été attendri pendant une heure et après, on pleure pendant une heure. Bon, là, c'est un peu l'anti-afro, ça les méchants. C'est-à-dire que c'est une famille qui galère, qui vole dans les supermarchés, qui casse des voitures pour piquer des portefeuilles, mais tout se fait dans la bienveillance, tout est, euh,
Je t'ai dit, mais quand j'écoute en extérieur, c'est génial.
Ça paraît tellement bizarre. Et ça rejoint d'ailleurs ce que Daniel avait dit dans le tout premier épisode du podcast en début de festival, et en disant que en regardant le pitch du film, ça l'intéressait. Alors lui qui est très fan et qui connaît très bien le Japon, qui va très souvent, et il disait c'est intéressant de faire un film sur des gens qui volent dans les magasins, parce que c'est complètement antinomique de la culture japonaise. C'est-à-dire que c'est un truc qui déjà est très bizarre, et ça fait aussi partie du film, c'est que ils sont de fait en marge de la société, et même dans leur manière de voler il y a une sorte de code de l'honneur et de questionnement moral de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on peut le faire.
Ils volent de manière mignonne surtout.
Ouais. Il y a une petite, c'est très mignon. Il y a une petite gestuelle qu'on peut pas vous refaire en podcast qui est faite avant d'aller voler le paquet de bonbons.
Et donc il y a une petite fille qui est très mignonne.
On a trop dit ce mot, on va devoir enchaîner
ici au vol à la tienne.
Vous êtes interdit de Mignon pendant 3 semaines, hein, je vous dis tout de suite. Hein.
Et oui, donc ce podcast est sponsorisé par Mignon 4. Donc à chaque fois, c'est des faux sponsors, parce qu'après, ça va nous tomber dessus, la répression des fraudes et tout ça. Du coup, Perrine, tu vas nous parler, je crois, de Nos Batailles, qui est un peu ta reco.
Oui, Nos Batailles de Guillaume Sénès, si je ne dis pas de bêtises en termes de nom. Le film Nos Batailles était, et là, bien sûr, c'est là où j'ai un super trou. Je ne me souviens plus dans quelle sélection il est.
C'était la semaine de la critique, peut-être.
La semaine de la critique.
Je vais te le dire, vas-y.
Je crois pas que ce soit la semaine de la critique.
Tu peux y aller, je vais te le dire.
Merci. Donc Nos Batailles, en effet, c'est un film avec Romain Duris.
Laetitia Doche. Laure Calamy, Dominique Valadier.
Oui, c'est surtout ces trois-là qui mènent un petit peu la barque. Le film est tenu par Romain Duris, qui est il traîne dans une sorte d'usine à la Amazon, vous savez, avec tous les cartons, les machins, les trucs qui passent, les commandes, enfin voilà, la bonne usine, quoi. Et il est un peu chef de rang dans cette histoire, et très impliqué dans tous les mouvements sociaux, syndicaux là-dessus, très défenseur de son équipe. Et il vit une vie d'ouvrier moyen avec ses deux enfants et sa femme. Et autour d'eux, la misère grandit, les gens sont de plus en plus dans une sorte de précarité, ça devient un peu compliqué. Puis du jour au lendemain, la femme disparaît. Elle s'est barrée. Clairement, elle s'est barrée. On ne sait pas où, les affaires ont disparu, elle a disparu. Voilà. Et elle le laisse un petit peu, genre, tu te débrouilles avec les enfants alors qu'il était très occupé par justement toutes ces activités syndicales, etc. Et donc il va devoir réapprendre à gérer un quotidien, sachant que sa femme n'est plus là et qu'en même temps, il y a des crises dans l'entreprise. Donc en fait, il y a vraiment deux sujets dans ce film. Il y a le sujet de l'entreprise, le sujet un peu à la Stéphane Brisé, à la loi du marché ou à la Anger, qui est passée il y a pas longtemps dans le festival. Donc voilà, on a le sujet un peu social, vraiment, et qui est très très bien développé sur justement la croissance de la précarité chez le monde ouvrier notamment, et l'impact que ça a sur les familles. C'est ultra violent, en fait, à quel point eux le prennent de plein fouet et non pas d'exutoire, non pas d'échappatoire par rapport à ça. Et de l'autre côté, on a justement le cas de cette famille en particulier où cette précarité sociale à un moment donné a eu raison potentiellement de la femme, même si on n'a jamais la vraie raison de pourquoi elle part. Et donc, d'un seul coup, un père qui va devoir réorganiser sa vie, réapprendre à vivre avec le manque et le fait qu'il ne sait pas ce qui va, où est et quand ça va s'arrêter. Et le film a vraiment deux temps assez jolis, qui est grâce à Laetitia Doche, qui est vraiment définitivement une boule d'énergie, un rayon de soleil, cette fille. C'est quand même assez incroyable ce qu'elle fait, parce que vraiment, Duris porte tout le film. Un film un peu difficile, un film un peu vraiment social, et il tire la gueule pendant tout le film, quoi. Mais grâce à Laetitia Doche, à un moment donné, qui fait basculer le film dans quelque chose d'autre, elle fait passer le film du drame à, je dirais, la comédie dramatique. D'un seul coup, on est quand même un tout petit peu plus léger, grâce à elle, qui remet les gens droit dans leurs bottes en disant « Bon, c'est bon, tu vas arrêter de faire la gueule et puis tu vas continuer, mon grand, quoi. » Et ça, c'est plutôt pas mal, le film. Faut pas attendre Laure Calamy qui fasse quelque chose autre chose que Laure Calamy. Romain Duris fait du Romain Duris, Laetitia Doche fait du Laetitia Doche. Mais justement, ils le font très très bien et ça sert totalement le film et le propos du film. Donc pour le coup, je trouve que Nos Batailles, j'aime pas dire ça, mais je le pense sincèrement, ça sent le bon succès public, parce que c'est vraiment un joli film, en fait.
D'ailleurs, ça sort le 10 octobre en France, et c'était bien à la semaine de la critique.
Ah, bravo, voilà. Juste à côté de la plaque.
Et alors du coup, on peut passer de Nos Batailles à Anger, puisque justement, t'en as un peu parlé, Perrine. Hugo, tu l'as vu ? Le film est sorti en salle.
Oui, je l'ai vu. Je l'attendais pas mal parce que j'avais beaucoup aimé La Loi du Marché avec Vincent Lindon déjà. La Loi du Marché, ça parlait plus de la recherche d'emploi. Et là, ça parle des luttes syndicales. Et donc, c'est l'histoire de Vincent Lindon qui mène un syndicat qui lutte contre la fermeture d'une filiale d'une boîte à Agen. Et en fait, le film raconte toute la succession des réunions entre les syndicats et la direction. Et en fait, c'est des plans séquences, une succession de plans séquences où tu vois la réunion presque de manière documentaire. Et moi, qui avais aimé La Loi du Marché, j'ai été très déçu parce que j'ai pas retrouvé cette variété de situations, de sentiments, de personnages. Là, je trouve ça très linéaire. Et en fait, c'est... Il y a presque pas de mise en scène, en fait c'est juste une succession de scènes et Vincent Lindon passe le film à gueuler en fait. Et moi j'aime bien quand Vincent Lindon est calme et qu'il finit par s'énerver à un moment. Là c'est de la pure, comme dirait Daniel Andrieff, mon camarade, c'est de la Vincent Lindon exploitation. Alors que c'est du Vincent Lindon porn, quoi. Et moi j'ai
moins envie de vous
voir. Ça m'a pas du tout vendu.
Et comme dans la loi du marché, il termine le film avec un événement flamboyant. Très très cheesy auquel j'ai pas du tout adhéré, donc moi ça m'a pas plu du tout, voilà, pour résumer.
Ça t'a pas plu, et moi en revanche je vais parler d'un film qui m'a plutôt beaucoup plu, que j'ai vu à un certain regard. Le titre français, donc c'est un film chinois, le titre français c'est Un grand voyage vers la nuit, et le réalisateur c'est Bigan, qui avait avant réalisé Kylie Blues. C'est un film qui était assez attendu, il y avait un petit buzz qui le précédait parce que on avait entendu des choses sur quelques prouesses techniques qui sont réalisées dans le film, et moi je m'étais pas beaucoup plus renseigné que ça, et je me présente à l'entrée de la salle et puis on me donne une paire de lunettes 3D. Je me dis, ah tiens, déjà alors je vais voir un film chinois en 3D, qu'est-ce qui se passe? Il y a une annonce avant le début du film qui dit ce n'est pas un film en 3D, mais suivez bien le personnage principal et à un moment donné vous comprendrez à quoi servent vos lunettes. Et donc on rentre dans
marcher
un...
dessus.
J'ai bien essuyé mes lunettes, j'étais prêt, le film a commencé, et donc en fait ça raconte une histoire d'un type qui est à la recherche d'une femme qu'il a aimée. Donc c'est beaucoup un film sur le souvenir, la réminiscence. C'est très comment dire, c'est un récit je dirais pas alambiqué, mais qui ne s'embarrasse pas trop de scènes explicatives. Donc on a des séquences qui s'enchaînent. C'est pour le coup très difficile à comprendre si on veut vraiment chercher à comprendre, et j'avais des discussions à propos de ça avec certains qui sont retournés le voir, qui commencent à décoder des choses. Moi à la première vision j'aurais du mal à tout vous expliquer, et je suis même pas sûr que ça soit possible, mais on est dans ce genre de cinéma qui est plus onirique, qui propose une sorte de rêverie, donc je dirais entre Happy Chapong, Veracita Cool et certains films de David Lynch. Et si on se laisse embarquer, ce qui a été mon cas, on arrive au bout d'un moment dans le film à cette scène où le personnage principal rentre dans un cinéma, enfile ses lunettes 3D. Là, je me suis dit, attends, ça doit être le moment où il faut mettre ses lunettes. Je les ai mises, et en fait, à partir de ce moment-là, on est embarqué, donc le film est en relief, et on est parti pour une heure de plan-séquence en relief jusqu'à la toute fin du film. Donc le film se termine par ce plan-séquence extraordinaire, parce qu'il y a il y a énormément de déplacements, il y a des figurants dans tous les sens. On voit
le film que le mec regarde dans le film.
On rentre dedans, parce que c'est lui-même, il rêve.
Lui est dedans.
On est dans le truc. Et on a des déplacements en scooter. À un moment, on fait de la tyrolienne. Enfin, je vous raconte pas le truc.
Mais c'est sport et vacances. C'est
d'une beauté. C'est d'une beauté incroyable. Une partie de ping pong. Enfin, bon, je vais pas tout vous raconter.
J'insiste. Hein, c'est du CPA. Hein,
mais en fait, tu te dis, t'es au camping. Qu'est-ce que tu peux faire avec une caméra 3D? Et ben voilà, Bigan a trouvé. Non, c'est vraiment vraiment époustouflant, en fait, je trouve, et ça nous emporte dans un truc qui, voilà, pour moi, enfin la petite sensation du festival. C'est donc un grand voyage vers la nuit de Bigan, dont on reparlera peut-être un petit peu au moment du bilan. On est arrivé donc au bout de cet épisode. Merci beaucoup Perrine, merci Hugo. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode 4 de nos ciné spécial Cannes. Un grand merci à la quinzaine des réalisateurs pour l'accueil. Pas merci à la météo très changeante du festival de Cannes. Merci à toute l'équipe de Binge Audio, à Camille, Alban, Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite.
À quel moment ça a merdé? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au festival de Cannes, mais clairement vous n'êtes pas du bon côté.
Binge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.